Donc, avec les deux premiers chapitres du livre 2 du Dernima que nous ouvrons aujourd'hui, Aristote va montrer en premier lieu la grande difficulté à définir ce qu'est l'âme. Il va exposer toutes les différentes approches philosophiques pouvant donner lieu à des contradictions quant à la situation de l'âme dans sa situation. Par sa démarche dialectique, il brouille d'une certaine manière tout ce qui paraissait clair auparavant. Dès le début, Aristote montre l'âme en rapport avec l'être. Il va donc dans le sens de l'opinion qui dit que l'un des genres de l'être est la substance. Donc, l'âme serait substance, mais en quel sens ? Là, notre philosophe accepte de se référer à l'analyse de la philosophie de la nature. Ce point de vue est montré par ce qu'il nous dit, et je cite « En un premier sens, la substance, c'est la matière, c'est-à-dire ce qui, par soi, n'est pas tel être déterminé. En un deuxième sens, c'est la forme qui, dès lors, vaut à la matière d'être appelée tel être déterminé. En un troisième sens, c'est le composé de ces deux principes. » À peine a-t-il montré que la substance peut être analysée au niveau de la philosophie de la nature selon les trois visions de la substance, à savoir substance-matière, substance-forme et ensuite le composé de ces deux principes, qu'il esquisse une autre définition de l'âme grâce à la distinction matière-puissance et forme-entéléchie, soit acte. Ici, le philosophe se place au niveau de la philosophie première. En effet, selon le regard que nous avons en philosophie première, la matière est l'être en puissance capable de recevoir toutes les déterminations, et la forme est comme l'être en acte. Donc, par le point de vue de l'acte et de la puissance, l'âme est principe par rapport au corps. De plus, il établit une distinction au sein même de l'acte, à savoir l'acte au sens de science et l'acte au sens de l'exercice actuel de la science. En avançant cela, il soulève une question embarrassante. La perfection de l'âme se trouve dans l'exercice. Donc, dans l'ordre de perfection, l'acte dans l'exercice est premier par rapport à l'acte lui-même. Nous voyons poindre la difficulté pour l'âme vis-à-vis des opérations vitales. Celles-ci viennent d'une certaine manière perfectionner l'âme et donc sont premières par rapport à l'âme. Il faut bien lier âme et corps, puisque l'âme, pour être elle-même en acte, a besoin des opérations vitales dans ce corps qui est en puissance de ces opérations vitales. Donc, ceci posé, Aristote reprend la réflexion par l'ousia, non plus tellement au sens de cette distinction matière, forme ou composé que nous trouvons en philosophie de la nature, mais au sens de composé. Il procède ici par élimination pour essayer de saisir ce qu'est le corps, puisque communément on nomme substance les corps. Aristote précise en distinguant les corps naturels, principe des corps non naturels. Et parmi les corps naturels, les uns sont doués de vie et les autres pas. Ainsi, le philosophe nous fait faire le passage entre la philosophie de la nature et la philosophie du vivant. À partir de cette expérience à l'égard du corps vivant, c'est-à-dire capable d'exercer des opérations vitales, Aristote va mettre en lumière la substance sous un autre sens. Il va se servir de la démarche philosophique pré-philosophique des catégories pour mieux comprendre ce qu'est l'âme, non plus par rapport à la matière, mais par rapport à un corps doué de vie. Sous ce regard, la substance est double. D'abord, se présente la substance première, qui est cette réalité singulière, le sujet, au-delà des attributions, puisque sujet, capable de recevoir toutes les déterminations parce que matière. Ensuite, la substance seconde, qui est l'attribut essentiel et premier de la substance première, sujet. Aristote montre que le corps ne compte pas au nombre des attributs, mais est bien sujet et matière. Voici ce qu'il dit. Le corps ne saurait être identique à l'âme. En effet, le corps ne compte pas au nombre des attributs d'un sujet, mais il est plutôt lui-même sujet et matière. Lorsqu'on aborde l'ousia selon les catégories, on établit une distinction entre corps du côté de sujet de l'ousia première et âme ousia seconde. Aristote vient de réaffirmer que le corps doué de vie n'est pas compté au nombre des attributs d'un sujet, mais il est lui-même sujet et matière. Le corps, donc, est sujet, et en tant que sujet, il est substance première, hors des catégories, tandis que l'âme est attribuée puisqu'elle est comme substance seconde. Aristote veut tout de suite sortir de cette impasse, où l'âme est du côté de la substance seconde, au niveau des catégories, c'est-à-dire attribut du sujet. Il le fera par le point de vue de la philosophie première, au niveau de l'acte et de la puissance. Mais, par les catégories, il veut mettre l'accent sur le caractère substantiel du corps vivant. Le corps vivant n'est pas un attribut surajouté, accidentel, comme la matière. Nous nous trouvons donc devant ce paradoxe apparent, l'âme est première et le corps est premier. Il faut comprendre que c'est sous deux analyses philosophiques différentes. L'âme est substance première, principe de toutes les déterminations, et si l'âme est substance, elle est acte, comme on le dit en philosophie première. Et elle est substance seconde, attribut au niveau des catégories. Le corps est également premier dans l'ordre des catégories, puisque substance première sujet, au-delà de toute attribution, tandis que l'âme est seconde. Or, nous venons de dire que la substance est en principe et cause selon la forme de ce qui est, est en téléchie. Nous voici donc à un autre niveau encore. Aristote fait cette distinction substance-acte, corps-puissance. L'âme serait donc en téléchie de tel corps capable de recevoir ses opérations vitales. Donc, par le point de vue de l'acte, Aristote montre que l'âme est première puisque l'acte est premier par rapport à la puissance dans l'ordre de la nature. Mais tout de suite, Aristote met en lumière la complexité de l'entéléchie. En effet, cela peut être saisi selon deux sens, soit comme science, soit comme exercice actuel de la science. Il nous met face à la distinction acte et exercice dans les opérations vitales. C'est à nouveau un autre regard. Il passe de l'analyse faite en philosophie première à celle de la philosophie du vivant. L'âme est saisie par la manifestation de ce qu'elle est, à savoir les opérations vitales du corps naturel, possédant la vie en puissance, qu'elle lui infuse. Mais, autre paradoxe apparent, alors que l'âme est principe et cause des opérations vitales, le vivant est relatif à l'exercice des opérations vitales qui le place en quelque sorte dans sa perfection. Donc, du point de vue de l'exercice des opérations vitales, celles-ci sont plus en acte que l'âme elle-même. C'est vrai que du côté de l'entéléchie, l'âme est en vue de ses opérations. Mais du côté substance, les opérations vitales sont accidentelles par rapport à l'âme qui est substance. Ici encore, Aristote montre la grande difficulté du lien qu'il y a entre l'âme et le corps doué de vie. Ensuite, Aristote montre l'âme sous le point de vue de la substance au sens de source selon l'intelligibilité. Il nous dit « l'ousia kataton logon ». L'intelligibilité, c'est ce que je peux définir, ce que je connais d'une réalité, ce que je peux saisir dans le corps vivant. Il va par là montrer que le corps est dans une unité d'être avec l'âme. Ceci face à Platon, qui pense que l'âme est être et ousia, et le corps donc non-être et accident. Pour Aristote, le vivant est celui dont l'âme est principe dans tel corps, et dont le corps est informé par l'âme d'une manière telle qu'il forme le vivant n'ayant qu'un seul être. Le philosophe va préciser que l'âme est ousia, mais comme l'ousia n'est pas identique à l'être, il peut maintenir que le corps soit assumé par l'âme. L'âme est ousia, mais l'âme est principe de vie de tel corps doué de vie. Cette ousia est ce qui donne au vivant toute son intelligibilité. C'est par l'âme que je connais le corps humain, et le corps n'a d'être que par l'âme. Il n'a pas d'être par lui-même, mais il a le même être que l'âme, un être substantiel, d'où l'unité substantielle entre mon corps et mon âme. Enfin, avant d'entreprendre à proprement parler l'induction de l'âme, Aristote, par une série d'illustrations, va essayer de saisir le rapport entre la partie de l'âme et celle du corps. Puis, il va l'étendre à la totalité de l'âme et du corps. Voici ce qu'il dit. Il faut donc étendre ce qui vaut d'une partie à la totalité du corps vivant. Le rapport qui existe entre la partie, du point de vue de la forme, et cette même partie, du point de vue de la matière, se retrouve entre le tout de la faculté sensitive et le tout du corps doué de la sensibilité pris comme tel. Par là, Aristote veut montrer et saisir si toutes les parties de l'âme influencent les parties correspondantes du corps. Il fait cela pour poser une autre question importante, à savoir si l'âme n'est pas séparable du corps, du moins en certaines de ses parties. Si, en effet, des parties de l'âme dont l'entéléchie est celle des organes correspondants, comment justifier ce que dit Aristote? Et je cite, « Il n'en est pas moins vrai que pour certaines autres parties, rien n'empêche la séparation, parce qu'elles ne sont l'entéléchie d'aucun organe corporel. » Donc, Aristote termine son chapitre en soulevant l'objection suivante, implicitement, je pense, le nous correspond-il à certains organes corporels ou est-il séparé du corps?
Avec le chapitre 2, Aristote aborde une nouvelle approche de l'âme. Celle-ci n'est plus dialectique et n'en reste pas à une définition générale comme dans le chapitre 1, mais elle est proprement philosophique. C'est une démarche inductive qui atteint l'âme comme principe et cause de l'être vivant et qui fonde donc une nouvelle partie de la philosophie. La transition entre les chapitres 1 et 2 est soulignée par le premier paragraphe du chapitre 2 dans lequel l'auteur précise la nouvelle méthode qu'il va prendre. Celle-ci est l'induction philosophique, caractérisée par ce passage du visible à l'invisible, du plus connaissable pour nous au plus connaissable selon le logos. Et c'est cette méthode qui va nous permettre d'atteindre la cause, comme le souligne Aristote. Dans le passage suivant, Aristote montre quel est le point de départ, il utilise le terme « arché », le point de départ, le principe de cette nouvelle recherche. Je lis le texte. Disons donc, et tel est le principe de notre recherche, que ce qui distingue l'animé de l'inanimé, c'est la vie. Or, il y a plusieurs manières d'entendre la vie, et il suffit qu'une seule d'entre elles se trouve réalisée dans un sujet pour qu'on le dise vivant. Que ce soit l'intellect, la sensation, le mouvement et le repos selon le lieu, ou encore le mouvement qu'implique la nutrition, enfin le dépérissement et la croissance. Ces quelques phrases d'Aristote sont très réfléchies et très intelligentes. Elles nous livrent des données nécessaires à l'induction. Aussi faut-il faire plusieurs remarques à leur sujet. D'abord que le point de départ de cette recherche qui distingue l'animé de l'inanimé par la vie est proprement l'expérience. Et c'est par la vie qu'on distingue l'animé et l'inanimé. Parce que ce dont on a l'expérience en premier lieu, c'est le vivant et la vie. Si Aristote utilise les termes d'animé et d'inanimé, alors que c'est ce que l'on recherche, l'âme, c'est en raison de son interrogation qui, depuis le début du livre, recherche qu'est-ce que c'est que l'âme. C'est l'expérience du vivant qui est le principe, le point de départ de l'induction. Précisons que cette expérience est déjà orientée par l'admiration et par l'interrogation. Aristote ne l'explicite pas dans ce texte-ci, mais cela est manifeste d'après l'ensemble de sa recherche. C'est en effet le tiesti de l'âme, du vivant qu'il recherche. De plus, cette distinction entre le vivant et le non-vivant l'animé et l'inanimé ne peut être vraiment explicité que par l'admiration et l'interrogation. Il n'y a pas de distinction sans interrogation. Si vous n'interrogez pas, vous restez devant les vivants et les non-vivants sans distinguer. Alors par l'interrogation, vous mettez en pleine lumière le vivant en vous demandant qu'est-ce qu'il est. Donc c'est présupposé cette distinction entre l'animé et l'inanimé, par la vie. Remarquons aussi que l'expérience du vivant est complexe et l'intelligence recherchant ce qu'est le vivant se trouve directement en face de deux divisions. L'animé et l'inanimé d'une part, ou le vivant et le non-vivant, et les différents niveaux de vie d'autre part. Alors qu'au point de départ de l'induction de la nature, vous n'avez qu'une seule division, et de même pour l'induction de la substance. Cette expérience du vivant est complexe, car le vivant lui-même est complexe, beaucoup plus que ce qui est mu ou que ce qui est. Et c'est en raison de cette complexité que l'induction de l'âme est si difficile. Enfin, remarquons l'importance de ce que dit l'auteur au sujet de la vie. La vie se dit de multiples manières, et il suffit qu'une seule d'entre elles se trouve réalisée dans un sujet pour qu'on le dise vivant. Il nous montre par là que la vie est une notion analogique, ce qui est capital, car toute l'induction de l'âme repose là-dessus, comme nous allons essayer de le comprendre. Donc voilà le point de départ. Ensuite, de la ligne 413 à 25 à la ligne 413 et 10, Aristote analyse par rapport au fondement l'ordre qui existe entre les différentes opérations vitales. Et c'est à partir de cet ordre et de cette unité à l'intérieur de la diversité que l'intelligence va pouvoir induire l'âme comme principe et cause propre de la diversité des opérations vitales et de leur unité. L'induction de l'âme se fait à partir de l'expérience du vivant qui possède cette complexité dans toutes ces différentes opérations vitales, et en se posant la question, en se demandant qu'est-ce que c'est que le vivant et d'où vient l'unité entre ces différentes opérations vitales. Donc, il y a la diversité des opérations vitales, l'unité et l'ordre entre ces diverses opérations. Et c'est à partir de là que par l'interrogation, on découvre l'âme comme principe radical du vivant, aussi bien de la vie intellectuelle que de la vie végétative. Elle est source de vie de tous les niveaux de vie. Alors je dis ça pour mieux comprendre le texte d'Aristote, parce que remarquons qu'Aristote demeure très discret par rapport à l'induction, et qu'il est par conséquent difficile de savoir à quel moment il induit, ou bien s'il ne se contente pas simplement de nous dire toutes les données nécessaires à l'induction, sans expliciter celles-ci vraiment pour elles-mêmes. Dans son texte, il passe très rapidement, c'est pas très clair. Mais essayons de comprendre le texte même, car il semble bien qu'Aristote y induise l'âme dès le début du passage quand il parle des plantes. 413 à 25. C'est pour cette raison que toutes les plantes mêmes sont considérées comme des vivants. On constate en effet qu'elles possèdent un pouvoir et principes internes qui les rend capables de croître et de décroître selon des directions opposées. Car la croissance ne s'opère pas vers le haut à l'exclusion du bas, mais vers les deux à la fois et en tous sens, chez tous les êtres qui s'alimentent régulièrement et vivent aussi longtemps qu'ils peuvent absorber de la nourriture. Cette fonction peut être donnée indépendamment des autres, mais à l'inverse, celles-ci ne peuvent, chez les êtres mortels, être séparées de celles-là. C'est évident chez les plantes, elles ne possèdent en effet aucune autre puissance de l'âme. C'est donc grâce à ce principe que la vie appartient au vivant, tandis que l'animal n'est constitué primitivement que par la sensation. Et dans le texte du commentaire de saint Thomas, il y a un point après les vivants. C'est donc grâce à ce principe que la vie appartient au vivant, point. Si Aristote induit l'âme dans ce passage, il ne l'induit pas à partir de la plante seule. On en a pourtant l'impression. Mais il se sert de la plante comme du niveau de vie le plus fondamental pour induire. De même que dans l'induction d'Ousia, il se sert du bœuf à bas pour montrer l'induction d'Ousia. Cette induction de l'âme ne peut se comprendre que parce que la vie est une notion analogique. Or, toute analogie implique une diversité, un ordre et quelque chose de commun. La diversité, Aristote la décrit très rapidement quand il parle du point de départ. L'ordre, il le regarde par le point de vue du fondement. Toute vie implique la vie végétative, pour les vivants mortels, et elle seule peut être séparée des autres. Et ensuite, il regardera, à la fin du passage, le point de vue de la sensation, qui est aussi quelque chose de fondamental dans le vivant. Et le quelque chose de commun permettant d'induire n'est-il pas manifesté par la vie végétative ? Par le fait que les plantes soient capables de croître et de décroître selon des directions opposées et en tous sens, aussi longtemps qu'elles peuvent absorber de la nourriture. En effet, il existe une différence radicale entre ce qui est mu et qui passe d'un contraire à l'autre, demeurant dans la pure extériorité, et le vivant qui lui est capable de faire la synthèse entre deux contraires, un peu comme Hegel. Le mouvement vers le haut et le mouvement vers le bas, ce que la nature seule ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose d'autre. Le propre du vivant, c'est d'être immanent et autonome, ce que manifeste en premier lieu la nutrition et la vie végétative. Au chapitre 2 du premier livre, l'auteur dit ceci: « L'animé semble se distinguer de l'inanimé par deux caractères principaux, le mouvement et la sensation. » Donc si Aristote induit l'âme ici, il ne le fait pas à partir de la plante, car il induit l'âme à partir de son expérience personnelle d'être vivant, possédant tous les niveaux de vie, depuis le plus fondamental jusqu'au plus parfait. Il le dit bien dès le début, quand il expose tous les niveaux de vie, il parle de l'intelligence et il les montre tous. Car le vivant que l'on expérimente en premier lieu, c'est soi-même en tant que vivant. Mais voyant l'ordre qui existe entre les différentes opérations vitales, et voyant ce qu'elles ont de commun et ce qu'elles ont de fondamental, Aristote se sert du niveau de vie le plus fondamental pour induire l'âme comme principe et cause radicale de vie. Notre âme est principe aussi bien de notre vie végétative que de notre vie spirituelle. C'est une cause radicale de vie. C'est pour cela que l'auteur insiste tant sur l'aspect du fondement, sur les plantes et sur la sensation. Ceci est très fort face à Platon, qui identifiait l'âme et l'esprit, et face à ceux qui considéraient l'âme sur le modèle de la nature. Aristote se sépare radicalement de ces deux positions par son induction. Il montre que l'âme est principe radical face à Platon, et que le vivant a quelque chose d'irréductible à la nature, à ce qui est mu, face aux autres philosophes. Ensuite, ligne 413 des 11, Aristote pose un problème qui manifeste une difficulté inhérente à l'induction de l'âme, qui est une induction complexe. Il y avait deux divisions au point de départ de cette recherche, et au terme, il y a deux principes induits dans la même induction. L'âme, principe radical des opérations vitales, et les principes propres ou facultés des opérations vitales. Et donc ces différents principes sont atteints dans la même induction, d'où sa complexité. C'est une induction à double étage, on pourrait dire. C'est pourquoi Aristote se demande quel lien il y a entre l'âme et les principes propres des opérations vitales. Il se pose à ce sujet deux questions. Chacun de ces principes, de ces choses, de ces principes propres, de ces facultés, est-il une âme ou une partie de l'âme ? Et s'il en est une partie, est-ce de telle manière qu'il puisse être séparé par la pensée, logo, seulement, ou selon le lieu? Enfin, à partir de la ligne 414 à 4, l'auteur revient sur le principe et la cause atteint dans l'induction pour préciser ce qu'il est. Et de même que dans un premier sens, ce par quoi nous savons signifie la science, et ce par quoi nous sommes sains, la santé, de même l'âme est-elle ce par quoi nous vivons, sentons et pensons. Selon un premier sens, c'est-à-dire comme logos, comme forme, morphée, comme idée, eidos, et acte, energeia, de ce qui reçoit. Et là, remarquons qu'Aristote reprend toutes les notions qu'il a utilisées dans le premier chapitre. Cette précision exprimant ce qu'est le principe d'une manière plus parlante, le « ce par quoi », nous permet de mieux le comprendre. Mais il faut se demander pourquoi l'auteur la développe ici et non au moment même de l'induction. N'est-ce pas parce que dans l'induction, l'âme est atteinte premièrement comme cause efficiente des opérations vitales, et ensuite, revenant sur l'induction et précisant que l'âme est ce par quoi nous vivons, Aristote manifesterait plutôt la causalité formelle de l'âme. Et ceci expliquerait que dans la dernière partie, il montre les liens entre l'âme et le corps, donc directement après. Car l'âme est ce qui informe le corps, elle est cause formelle du corps. Il faudrait, au terme de cette étude, éclairer ce chapitre 2 où Aristote nous donne l'induction par ce qu'il dit dans le chapitre 4 de ce même livre, montrant que l'âme est principe et cause du corps vivant selon trois causalités. Elle est cause du mouvement, donc la cause efficiente, cause comme ce en vue de quoi, et cause comme substance, cause formelle. Et c'est dans une même induction que l'âme est atteinte selon ces trois causalités. Il n'y a pas trois inductions différentes, mais des précisions successives à l'intérieur de l'induction. L'âme est atteinte premièrement comme cause efficiente, à partir de la diversité des opérations vitales, on a vu un principe de vie, une source de toutes les opérations vitales et de leur unité. Elle est cause, puis comme cause formelle, et enfin comme cause finale. Mentionnons enfin la possibilité d'une autre induction de l'âme, non plus par le point de vue des opérations vitales, mais par celui de la complexité du corps humain, de son harmonie et de son unité. Disons en conclusion que si Aristote reste très discret sur l'induction et s'il passe très rapidement, il nous donne cependant ce qui est nécessaire pour induire l'âme. Et c'est par là où il est si formateur pour nous, car il nous oblige à ne pas nous arrêter à ce qu'il dit, mais à s'en servir pour refaire nous-mêmes la démarche à partir de notre propre expérience.
Il s'agit des rapports entre l'âme et le corps que Aristote étudie à la fin du chapitre 2 du livre 2. Le problème des rapports entre l'âme et le corps est un de ceux qui ont le plus préoccupé les philosophes de la Grèce. Il est aussi un de ceux où la divergence de leurs pensées a été le plus manifeste. C'est en tout cas un des points fondamentaux où la pensée d'Aristote s'oppose à celle de Platon. La position dualiste de Platon qui sépare radicalement l'âme du corps sera toujours présente en arrière-fond de l'étude d'Aristote sur l'âme. Aristote intitule « Traité de l'âme » un livre où il ne nous parle pas simplement de l'âme, mais aussi du corps. Il nous parle longuement de la vie végétative, des sensations. C'est déjà un premier indice qui nous montre qu'il s'écarte de la position de Platon. D'autre part, la philosophie d'Aristote a pour point de départ l'expérience de la connaissance par l'intermédiaire des sens externes. Cette place capitale qu'Aristote donne aux sensations, et en particulier au toucher, est aussi un indice qui nous montre toute l'importance qu'il donne au corps. Nous regarderons en particulier ce que nous dit Aristote à la fin du chapitre 2 du livre 2, de 414 à 15 à 414 à 30, où il apparaît qu'Aristote envisage les rapports de l'âme et du corps sous un double aspect. D'une part, l'âme étant considérée comme forme du corps, entelegeia du corps, et d'autre part, l'âme et le corps envisagés dans leur unité substantielle. Donc le premier point, là, c'est l'âme forme du corps, entelegeia du corps. Citation d'Aristote. Le corps ne peut pas être l'entelegeia de l'âme. C'est l'âme qui est l'entelegeia d'un corps d'une certaine nature. Aristote veut nous montrer par là que le corps, étant ce qui possède la vie en puissance, est incapable de s'actuer par lui-même sans l'âme. Ici, Aristote reprend ce qu'il disait déjà dans sa définition commune de l'âme au chapitre 1. L'âme est une entelegeia première d'un corps naturel ayant la vie en puissance. Il nous montre par là que c'est l'âme qui informe le corps, lui donne son intelligibilité. Le corps étant incapable de s'informer par lui-même sans l'âme. Nous pouvons même dire que l'âme est source d'être pour le corps. L'expérience de la mort nous montre cela particulièrement par mode négatif. Quand l'âme est séparée du corps, le corps comme tel n'existe plus. Il se désagrège et perd son unité. Aristote nous le montre bien dans le chapitre 1 où il dit « Ce n'est pas le corps séparé de son âme qui est en puissance capable de vivre, c'est celui qui la possède encore. » Pour Aristote, le cadavre n'est plus un corps, de la même façon que l'œil séparé de la vue n'est plus un œil réel, mais n'est œil que par homonymie. Le corps est matériel, et par le fait même, il possède une indétermination, une opacité qui fait qu'il demande à être déterminé par l'âme. Il n'est que le réceptacle, la capacité, la potentialité qui reçoit de l'âme sa forme. C'est donc la distinction acte-puissance qui va le mieux nous permettre de saisir comment l'âme est première par rapport au corps. Car si nous en restons à la distinction substance-accident, nous voyons que le corps est sujet à qui les catégories peuvent être attribuées, donc qu'il est substance. Si nous ne regardons le corps que comme substance, nous ne pouvons pas voir comment l'âme a une priorité sur le corps. Alors que si nous le regardons comme puissance, en lien avec l'âme acte, nous voyons tout de suite la priorité de l'âme sur le corps. Il faut donc bien maintenir que le corps est substantiel, mais ce substantiel est en puissance. Tout cela nous montre bien que ce n'est que par l'âme que nous connaissons le corps humain comme corps humain. C'est l'âme qui me donne l'intelligibilité ultime du corps humain. Si nous ne regardons que le corps sans regarder l'âme, nous n'avons pas l'intelligibilité plénière sur le corps. Nous avons alors un regard trop extérieur et nous n'avons pas une connaissance du corps humain comme tel. Certains biologistes ne regardent le corps humain que de l'extérieur. Ils regardent le corps humain pour lui-même, sans voir son lien intime avec l'âme, sans voir que c'est l'âme qui lui donne son intelligibilité dernière. Le philosophe, au contraire, regarde le corps humain par la connaissance de l'âme, en comprenant que la véritable connaissance du vivant se fait de l'intérieur par l'âme. Bon, deuxième point, c'est l'unité substantielle entre l'âme et le corps, qui n'est pas contradictoire en fait avec la priorité, avec le point de vue de l'âme, forme du corps et intelligeia du corps. Citation d'Aristote. C'est à bon droit que des penseurs ont estimé que l'âme n'est ni sans un corps, ni un corps. Car elle n'est pas un corps, mais quelque chose du corps. De quelque chose, la Tricot précise en note que le terme grec traduit par quelque chose n'implique en fait aucune idée de subordination. Il s'agit plutôt d'une interdépendance entre l'âme et le corps. Dans cette phrase très brève, très condensée, on peut dire qu'Aristote nous donne l'essentiel de sa conception des rapports entre l'âme et le corps. Il commence tout d'abord par stigmatiser deux positions fausses. D'une part, ni sans un corps. Ici, Aristote fait allusion à la position de Platon, selon laquelle le corps n'entre pas dans la définition de l'âme. Pour Platon, le lien de l'âme avec le corps est contre nature. L'âme a été liée au corps à cause d'une peine, d'une punition. Mais avant d'être liée au corps, l'âme était libre, et étant libre, elle pouvait être contemplative. Il faudra donc libérer l'âme de ce tombeau qu'est le corps par la contemplation. Seule la contemplation permettra à l'âme de se libérer du poids du corps. Alors, deuxième erreur, ni un corps. Cette affirmation d'Aristote va contre tous ceux qui ne distinguent plus l'âme et le corps, ce qui est très fréquent dans le monde scientifique et positiviste d'aujourd'hui. C'est aussi la position des stoïciens. Leur position est donc diamétralement opposée à celle de Platon, alors que celle d'Aristote est intermédiaire entre les deux. Alors ensuite, la position donc d'Aristote lui-même. Alors, Aristote nous dit donc que l'âme est quelque chose du corps et c'est pourquoi elle est dans un corps. C'est donc la position intermédiaire entre les deux précédentes, ni dans un corps ni un corps, qu'Aristote exprime ici. Cette position d'Aristote semble en lien direct avec l'induction de l'âme du chapitre 2. C'est bien en effet à partir des différentes opérations vitales que j'expérimente dans mon corps que je saisis l'âme comme principe et cause. Je ne saisis pas l'âme en dehors du corps. Il y a donc une unité radicale entre l'âme et le corps. Ils ne sont pas deux êtres différents, contrairement à ce que dit Platon, mais ne forment qu'un seul être. Certes, l'âme a une priorité sur le corps, par le fait que c'est elle qui informe le corps, mais ils ne font qu'un seul être substantiel. Dans le chapitre 1, Aristote illustre par deux analogies ce lien substantiel entre l'âme et le corps. Première analogie, 412b5. Il n'y a pas à rechercher si l'âme et le corps sont une seule chose, pas plus qu'on ne le fait pour la cire et l'empreinte. La cire et l'empreinte sont inséparables et ne forment qu'un seul être. De même, l'âme et le corps sont inséparables. Deuxième analogie, 413a. De même que la pupille est jointe à la vue, dans le cas qui nous occupe, l'animal est l'âme jointe au corps. C'est une autre analogie prise cette fois dans un organe d'un vivant, où Aristote nous montre que l'on peut étendre ce qui est vrai d'une partie du corps à l'ensemble du corps lui-même. La vue est à l'âme ce que l'œil est au corps. Le problème des passions est aussi un indice qui nous dévoile ce lien substantiel entre l'âme et le corps. Aristote nous dit en effet au chapitre 1 du livre 1, 403a5, que dans la plupart des cas, il n'est aucune affection que l'âme puisse, sans le corps, subir ou exercer, telle la colère, l'audace, l'appétit. Plus loin, il nous dit encore: il semble bien que toutes les affections de l'âme soient données avec un corps. Le courage, la douceur, la crainte, la pitié, l'audace, et encore la joie, ainsi que l'amour et la haine, car en même temps que se produisent ces déterminations, le corps éprouve une modification. Tous ces textes nous montrent bien que si Aristote distingue l'âme du corps, il ne la sépare jamais de celui-ci. Aristote laisse cependant une interrogation, une réserve, en disant que l'âme n'est pas séparable du corps, tout au moins certaines parties de l'âme. Plus loin, il ajoute: cependant, rien n'empêche que certaines autres parties ne soient séparables, en raison de ce qu'elles ne sont les intellegeia d'aucun corps. Aristote ne précise pas quelles sont ces parties de l'âme. Il s'agit sans doute du nous, comme il semble le dire au chapitre 1 du livre 1. S'il est pourtant une opération qui semble propre à l'âme, c'est l'acte de penser. La grande question d'Aristote tout au long du traité de l'âme, ce sera de savoir si le nous a une existence séparée du corps. S'il y a un nous séparé, il y a alors possibilité de séparation de l'âme, possibilité d'immortalité de l'âme. Mais la réponse plénière ne relèvera pas de la philosophie du vivant, mais de la philosophie première. Ce n'est que par la saisie de l'être en tant qu'être qu'on pourra découvrir l'existence d'un nous séparé et qu'on pourra par le fait même envisager l'éventualité de l'immortalité de l'âme. Bien qu'il soit assez rapide sur cette question capitale des relations entre l'âme et le corps, Aristote nous montre cependant très nettement leur unité substantielle au niveau de l'être. Le corps n'est pas exclu de l'âme, n'est pas extrinsèque à l'âme, comme dans la position de Platon. Mais cette unité substantielle n'empêche pas la distinction entre l'âme et le corps. C'est bien en les distinguant que nous laissons à l'âme une possibilité d'existence séparée après la mort. Alors le troisième point, qui n'est pas vraiment un troisième point, c'est... l'âme est dans un corps d'une nature déterminée. C'est la dernière partie du chapitre 2. Par là, Aristote veut nous montrer que ce n'est pas n'importe quel corps qui peut recevoir l'âme. Il y a obligatoirement une harmonie entre la détermination du corps et la détermination de l'âme. Ce que montre plus loin Aristote en disant que n'importe quoi n'est pas susceptible de recevoir n'importe quoi. Et Aristote ajoute que l'âme n'est pas dans un corps à la façon dont nos prédécesseurs l'adaptaient au corps, sans ajouter aucune détermination sur la nature et la qualité de ce corps. Aristote semble ici faire allusion aux pythagoriciens et à Platon et à leur théorie de la réincarnation, selon laquelle l'âme pouvait successivement entrer dans des corps différents. Pour Platon, le corps n'étant qu'un accident, n'importe quel corps peut recevoir n'importe quelle âme. Le corps d'un animal peut même recevoir l'âme humaine. Aristote s'oppose avec force à cela et l'explique ensuite en disant que l'entelégeia de chaque chose survient naturellement dans ce qu'est en puissance cette chose. Cela veut dire qu'il existe une harmonie qui provient d'un ordre naturel entre ce qui est en puissance, le corps, et ce qui est en acte, l'âme. Par le fait de cette harmonie naturelle, il est impossible de faire entrer n'importe quel corps dans n'importe quelle âme. Aristote nous dit plus loin qu'il faut que la matière soit appropriée. Cela veut dire que pour que le corps puisse recevoir de l'âme une nouvelle forme, il faut qu'il ait été déjà informé auparavant par l'âme. Car une forme ne peut se réaliser que dans le sujet qui la contenait déjà en puissance, qui était apte à la réalisation de cette forme. Conclusion d'Aristote, l'âme est entelégeia et la forme de ce qui possède la puissance d'avoir une nature déterminée. Il faut donc que le corps ait en puissance cette forme et cette détermination pour qu'il puisse la recevoir de l'âme. Cela montre que n'importe quel corps ne peut donc recevoir n'importe quelle âme, qu'il y a un lien intime entre la détermination du corps et la détermination de l'âme.
Merci bien de ces trois exposés successifs. Alors maintenant, ceux qui ont des questions à poser, qu'ils les posent. On va peut-être d'abord faire les questions. Première partie. C'est comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Alors, que ceux qui ont des questions à poser posent leurs questions.
Oui. Aristote emploie beaucoup l'intelligence au début. Alors, est-ce que ça veut dire que l'induction de l'âme demande toute la métaphysique?
Est-ce que l'induction de l'âme démontre toute la
métaphysique?
Demande toute la métaphysique.
Est-ce que c'est exactement ce l'intelligence?
Il l'emploie aussi en physique, l'entelégeia.
Donc on n'est pas à niveau métaphysique pour un bon âme?
Non. Le mot entelégeia est employé aussi en physique. C'est comme ça qu'il définit la nature, le mouvement. L'acte de ce qui est en puissance.
Même dans sa logique.
Quoi, mais là aussi. Le mot entelégeia est employé de façon courante. Habituel. Alors en métaphysique, il lui donnera un sens spécial, mais c'est ça qui est terrible là-dedans. C'est que les mêmes mots chevauchent. Ce qui est difficile. La philosophie de la nature ici, le péripsychèse, n'est pas au niveau de la philosophie première.
Donc là, c'est une entelechia au niveau des opérations vitales qui atteignent leur fin.
Tout simplement. Sans beaucoup de précision. Oui.
Ça présuppose quand même la métaphysique, ou...
Ah, je crois pas qu'on puisse dire ça de façon absolue. Alors, vous mettriez la philosophie de l'âme comme subordonnée, subalternée à la métaphysique.
Pas d'une façon absolue, mais au moins dans l'œuvre d'Aristote, quoi, dans sa pensée.
Est-ce que dans l'œuvre d'Aristote, l'insistance avec laquelle Aristote met le trait de l'âme dans la philosophie de la nature, les rapports entre la philosophie de la nature et la philosophie première sont extrêmement difficiles à préciser. Et je crois que pour Aristote, la philosophie de la nature est distincte de la philosophie première. Elle n'est pas la philosophie première. Et il ne dit pas du tout qu'elle est subalternée. Il ne donne jamais ça comme exemple de subalternation. L'exemple classique de subalternation, c'est l'astronomie. Oui, ce sont ces exemples-là qu'il prend. Alors, c'est très délicat qu'il y ait des interactions entre les deux. Que grâce à la métaphysique, votre philosophie de la nature et le péripsychès puissent aller plus loin. Je suis tout à fait d'accord. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que ça présuppose la philosophie première. Vous voyez ? Ce que je crois, c'est qu'en effet, il faut une certaine connaissance du devenir et de l'être pour comprendre l'âme. Mais est-ce que c'est pas une subalternation ?
On ne sait pas tellement quand est-ce qu'il induit. Tu vois, il donne tout ce qu'il faut pour induire, et par rapport à l'induction elle-même, il reste très discret. Alors c'est vrai, je comprends bien ce que tu dis, c'est difficile de savoir.
Ce qu'on voit souvent dans la traduction de Foucault, il y a des notes où il parle de deux inductions, mais est-ce que c'est vraiment juste?
Il parle de deux définitions plutôt.
Deux définitions.
Il ne dit pas induction.
Et est-ce que l'induction vient pas au terme après avoir précisé l'une, c'est ce qui me semblait, après avoir vu l'unité du vivant et vu sa diversité de l'opération vitale. Est-ce que, parlons, il nous demande de faire l'induction. Est-ce que c'est là qui fait l'induction?
Quand je parle du ce par quoi, en fait, c'est... Non, c'est avant, l'induction elle est avant, enfin... Le centre du chapitre, il me semble, hein, vers, je sais pas.
Dites, c'est vous qui parlez.
C'est avant le passage, dans 413 à 25, j'ai oublié de le lire, quand il dit « Pour le moment, disons seulement que l'âme est le principe des facultés susdites et se définit par elle. » Donc là, il montre que l'induction a été faite.
Oui.
Donc, c'est dans le passage avant ce par quoi, qu'il y a l'induction. Alors, où, c'est pas facile. Parce qu'en effet, après avoir parlé des plantes, il parle des animaux, et de la sensation. Et il regarde... moi, ce qui me semble, c'est qu'il donne tout ce qu'il y a de nécessaire à l'induction en regardant l'ordre qu'il y a entre les différentes opérations vitales par le point de vue du fondement, la vie végétative et la sensation. Et à partir de là, on peut induire. Et peut-être même, ce qui me semble, déjà à partir de la vie végétative. Donc dans ce passage ici. Mais, si tu veux, c'est pas dit explicitement, c'est ça qui est difficile. Enfin, il semble quand même, quand il dit c'est évident chez les. C'est donc grâce à ce principe que la vie appartient au vivant, il semble bien que la luxure se fait arriver.
C'est donc en effet avec ce principe. Quand c'est le principe que la vie appartient au vivant, c'est quand même très clair.
Oui,
mais il induit le fondement de la vie.
Est-ce que c'est...
Mais il est obligé d'après de représenter les différents niveaux, parce que sinon il définit le fondement de la vie végétative. Mais quel est le rapport entre cette vie végétative nutritive et les autres? Ça arrive d'être des accidents par rapport à ça.
Oui.
Oui, il me semblait plutôt qu'il, le fait qu'il nous dit qu'il est un principe, est-ce qu'il n'essaie pas de nous le faire saisir dans, sa, dans son développement qui suit? Est-ce que nous dire qu'il y a un principe, c'est.
Je crois que ce qui nous gêne beaucoup, c'est qu'on oublie un tout petit peu le climat dans lequel, de fait, se fait cette étude qui n'est pas tout à fait le même que pour nous. Nous avons un souci. L'induction pour montrer que l'âme existe comme un principe. Aristote ne cherche pas du tout à montrer que l'âme existe. Comme il ne cherche pas du tout à montrer que Dieu existe. Ça peut étonner, ça.
m'intéresse, c'est de chercher qu'est-ce que c'est que l'âme, et puis d'essayer de montrer qu'il y a une partie de l'âme qui est indépendante du corps. Et par là, à la fois, on justifie ce qu'il y a d'intéressant dans Platon, ce qu'il y a de juste dans Platon. Si une partie de l'âme et la partie principale de l'âme est en dehors de, du corps, par ce prix, je ne sais pas, dans toute l'âme est en dehors du corps. Vous voyez ?
Son intention, c'est pas d'induire quand même ?
Son intention, c'est de chercher qu'est-ce que c'est que l'âme.
C'est
beaucoup bien. Plus que l'existence de l'âme. Je crois. Vous voyez, c'est comme pour Dieu. Il le dit du reste au début. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? C'est le début. Chapitre premier, livre premier. Il le dit. Il ne dit pas du tout chapitre premier, nous allons montrer que l'âme existe. Il n'a jamais dit ça.
Alors comment se fait-il que tous les éléments de l'induction soient présents là ?
Ben oui, parce que c'est très important. Pour savoir ce que c'est que l'âme, il faut induire. Mais c'est pas l'induction donne l'existence et les éléments de l'induction nous permettent à poser qu'est-ce que c'est que l'âme ? Parce que l'âme est source de tout ça. Oui, il me semble, vous voyez, il y a un souci beaucoup plus net pour Aristote de montrer l'existence de la substance que l'existence de l'âme. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Dans le livre de Zénon, la métaphysique, au chapitre 17, on sent très bien qu'Aristote veut à tout prix montrer qu'un principe, ben oui, ça implique une recherche particulière et un type de raisonnement particulier. Et donne le gros exemple pour essayer de trouver ça. C'est pas ça ici. Vous voyez, c'est très proche d'une description. Hein, c'est très proche. Description très intelligente. Donc tous les éléments de l'induction sont présents. Mais si Aristote faisait une véritable induction, il montrerait que toute cette diversité implique une certaine unité et qu'on interroge pour savoir d'où vient cette unité. Qu'est-ce que c'est que cette unité ? Et il ne le fait pas. Alors on pourra expliquer sous des notes et que les moments les plus difficiles, les étudiants ne prennent pas de notes. Vous avez ce genre d'explication. Et que quand ça devient très difficile, on sait très bien, on s'étend un cours quand c'est facile. Et dès que c'est difficile, on va très vite. C'est comme ça, quand il faut monter, on a beaucoup d'accélérateurs, on va très vite. Alors on va très vite, toujours comme ça. Tandis que quand c'est facile, on peut s'étendre. Et au fond, les inductions d'Aristote, c'est toujours comme ça. C'est une rapidité extraordinaire. Mais il le dit pour l'acte, il le dit pas pour ici. Hein? Je crois que nous sommes en face d'un climat religieux dans lequel se fait cette philosophie, pour lequel l'existence de l'âme est évidente. On la met pas en cause. Oui.
Comment on pourrait faire aujourd'hui si c'est bon?
Qu'est-ce qu'il y a?
Comment on pourrait faire aujourd'hui?
Pour nous, aujourd'hui, on est obligé de la reprendre beaucoup plus profondément. On est obligé de dire, nous ne pouvons découvrir l'âme que de deux manières. Par l'intériorité et l'amour que nous avons, cette intériorité, il y a donc quelque chose. Vous voyez, la distinction entre intériorité et extériorité, c'est la première approche où on serait d'accord là avec le néoplatonisme. C'est comme ça que le néoplatonisme présente. Vous voyez, le début, reprendre si vous voulez, le début de l'Ennéade 5.1 de Plotin. Comment se fait-il, avec un peu de rhétorique, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que tu es toujours dans la distraction, toujours dans la dispersion, et que tu oublies ce qu'il y a d'essentiel en toi ? Revenir au plus intime de soi-même. Donc, différence entre l'extériorité et l'intériorité. Pour moi, c'est la première des démarches. La seconde, c'est d'essayer de montrer que cette diversité que nous avons en nous, de nos opérations, c'est toujours nous. N'allez pas dire que quand vous allez prendre, que prenez le petit déjeuner, c'est pas vous. Vous pouvez pas dire quand vous pensez que c'est pas vous. Quand vous vous réveillez, c'est vous. Donc il y a l'unité profonde à travers toutes ces opérations. Comment découvrir cette unité dans cette diversité? Le corps n'explique pas, puisque le corps implique l'extension et n'explique pas cette unité intérieure. Il faut donc poser une source, un principe.
Mais est-ce que la phusis n'expliquerait pas ça?
Non, parce que la phusis n'explique pas. La phusis est bien un principe d'intériorité, mais la phusis n'explique pas qu'il y a quelque chose de plus, puisqu'il y a des initiatives de celui qui se veut. Tandis que la phusis explique simplement qu'une réalité a une opération propre, un devenir propre. C'est le se movere du vivant. C'est l'assimilation. Ah mais oui, tous les éléments de l'induction y sont.
Mais même sans voir l'unité à l'IFC, simplement une différence entre un corps physique et un corps vivant.
Oui, mais c'est très vrai que tout de suite vous dire qu'il faut bien qu'il se meuve, il se meut. Donc s'il se meut, il faut bien qu'il y ait un principe intrinsèque. Vous voyez? Mais pour mieux montrer l'unité, vous voyez, vous pouvez, parce que c'est comme ça, vous pouvez dire qu'il y a différents moments cette induction, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Quoi ? Tout de suite, il veut montrer cette unité dans l'homme. Et partout, il y a la distinction entre les deux. C'est pour ça que tout de suite, la première distinction, animée, inanimée, se fait par la vie. En réalité, se fait par l'âme. C'est le coup. La distinction se fait par l'âme. D'un côté, il y a une âme, et de l'autre côté, il n'y a pas d'âme. Et c'est suffisant, l'induction est suffisante. Oui.
Si on fait l'induction, on revient à l'unité de la forme.
Oui.
Du sujet.
Oui.
Comment on peut réintroduire la poussée, enfin le deviner, les opérations?
Ah, je l'ai au point de départ. Elle est au point de départ, elle est donnée dès le point de départ. Puisque ces opérations impliquent tout un devenir. Donc, vous découvrez d'abord l'âme comme principe efficient. Puis vous voyez que ce principe efficient étant immanent, détermine le corps, les formes du corps, et qu'il est l'acte du corps pour montrer la finalité. Vous voyez? Donc la première, au premier moment de l'induction, c'est l'âme en tant qu'elle est principe d'immanence de l'opération. Donc causalité efficiente. Vous découvrez par l'âme premièrement comme cause formelle et comme cause efficiente. C'est dans ce sens-là que vous restez dans la phusis, dans la philosophie de la nature. Tandis qu'au contraire, l'ousia, vous la découvrez tout de suite comme forme, comme source de toutes les déterminations. Vous voyez, c'est là la très grosse différence. Vous découvrez par l'âme premièrement comme substance et comme principe. C'est pour ça que c'est vrai ce que vous dites, c'est comme d'une certaine manière animé, inanimé, tout de suite.
Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que la plante et l'animal ont une âme?
Oui, forcément, animé, inanimé, la plante est inanimée.
Mais ben, nous, aujourd'hui, on ne dirait jamais que la plante a une âme.
Ben, on peut le dire entre nous. Ben, vous ne le direz pas à un petit gosse. Regarde cette plante, tu vois, il y a une âme dedans. Non, parce qu'il confondrait. Alors on est tellement loin de ce langage qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'il y a un principe immanent de ces mauvais rêves. Parce que le petit gland qui va devenir un grand chêne, hein, expliquez ça, sans qu'il y ait un principe intrinsèque d'organisation, le chiffre de ce vivant. C'est quand on revient au chiffre de ce vivant, on prend ce langage, ça veut dire qu'il y a un principe de vitalité. On dit que c'est un vivant, c'est pour ça que c'est un vivant, il y a donc une âme. Vous voyez, il y a une âme, l'âme végétative de la plante.
par la première fois, si en distinguant l'intériorité du cœur de l'homme, est-ce que par là on ne rejette pas les autres vivants que l'homme?
Ah, je n'étudie les autres vivants en plan philosophique que par rapport à l'homme.
Oui, mais donc je ne saisirais pas ce qu'il y a de fondamental dans le monde.
Ah, pas du tout. Pas du tout, puisque vous êtes un vivant excellent. Vous êtes le premier, vous êtes un vivant plus noble que le lion, plus noble que tous les autres vivants. Et donc, ce que vous découvrez en vous, vous permet de découvrir chez tous les autres petits vivants. Et ce qui est le plus fondamental, c'est toujours à partir du plus parfait qu'on découvre le moins parfait. Et c'est pas la parfait qui va faire comprendre le parfait. Or, nous sommes tous des vivants.
Mais est-ce que la distinction entre l'intériorité et l'extériorité peut uniquement saisir le niveau spirituel de l'homme?
Non, c'est saisir la présence d'un élément qui distingue ce qui est simplement mu et de ce qui se meut. Alors évidemment, je saisis avant tout, c'est pour ça que je dis, là je rejoins les néoplatoniciens. Je le fais évidemment en premier lieu par la conscience. J'ai conscience d'aimer, j'ai conscience de penser. J'ai conscience aussi de digérer. J'ai conscience aussi, vous voyez, de voir, d'entendre du bruit. J'ai conscience. Conscience de tout ça. Bon, cette conscience, c'est intériorité. Ça va loin à l'intériorité. Moi, je crois que c'est la première approche, parce que ça, personne ne la refuse. Prenez en gros, autre chose est de se regarder dans la glace. Autre chose est de se regarder au-dedans de nous-mêmes. Et je me dis, les autres vous regardent toujours par la glace. Désastreux, c'est comme ça. Je suis très humilié, c'est comme ça. Les autres ne me voient comme ça. Tandis que j'ai un privilège, moi, de me voir de l'intérieur. Et l'animal, je ne vois que l'extérieur. C'est pour ça que je connais l'âme de l'animal et l'âme de la plante canalogiquement. Pas directement. C'est pour ça qu'on ne fait pas une philosophie du lion. On ne fait pas une philosophie de la plante. On fait une philosophie du péripsuchès. Et là, vraiment, j'ai un principe propre que je saisis immédiatement et qui est un principe propre l'âme. Donc il y a une partie de la philosophie nouvelle. Dès qu'il y a un principe propre, il y a une philosophie nouvelle. Mais il faut saisir un principe propre. S'il n'y a pas de principe propre, il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de partie de la philosophie. Philosophique dans le sens philosophique, dès que je saisis l'âme comme principe propre. Non, elle devient, attendez, je vois ce que je veux dire, la science au sens strict, c'est quand je saisis la propriété, c'est sûr, la science au sens strict, mais dès que je saisis d'un principe propre, il y a une possibilité d'une partie de la philosophie, ça veut dire, il y a une recherche. Philosophique. Alors, quelle est la propriété de l'âme? Quelle est la propriété de l'âme? Hein? Oui, c'est pas comme psychopathe que ça de répondre. Alors, vous découvrirez les puissances de l'âme qui vous donneront les degrés de vie. Les degrés de vie, c'est pas encore la propriété de l'âme.
Pas l'autonomie.
La propriété de l'âme, ce n'est pas une unité substantielle avec un corps. Parce que l'âme ne se rencontre que dans un corps animé.
Mais c'est l'oppose. C'est l'unité profonde, vous voyez. C'est ça que ça touche presque la personne, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que la personne? C'est l'unité de l'âme et du corps qui existe de telle manière, comme un tout. Le problème de la personne vient compléter le problème de... Non, je ne le fais pas en philosophie du vivant, et je le ferai en métaphysique. Alors c'est là où on voit que la philosophie du vivant demande d'être achevée. Mais la propriété de l'âme comme telle, c'est très vrai, c'est de voir les diverses facultés qui émanent d'elle. Vous voyez, les différents degrés de vie, et dans les différents degrés de vie, préciser les propriétés de l'âme noétique, de l'âme sensible et de l'âme végétative. Et donc je vois bien que là, c'est une science qui a des degrés.
Est-ce que l'unité du corps et de l'âme n'empêche pas la possibilité qu'une puissance ne soit pas liée au corps, comme le dit par
exemple?
Est-ce que l'unité substantielle du corps et de l'âme n'empêcherait pas la possibilité, par exemple, qu'une puissance ne soit pas liée au corps d'une manière?
Je dirais, c'est ça qui cause le problème. C'est que l'âme est forme du corps. Et dans forme du corps, peut-elle être encore source d'un nous séparé? Hein? C'est ça la question, et au fond, c'est la grande question d'Aristote. Alors, il prend l'unité, il dira que c'est à des niveaux différents, tout simplement. Ce sera le niveau de l'être et le niveau de la vie. Du côté du niveau de l'être, l'âme est forme du corps et donne une idée d'être substantielle. Mais au niveau des degrés de vie, il peut se faire cette forme substantielle qui est reçue dans le corps puisse avoir une opération séparée du corps au niveau de la vie. Il n'y a pas de contradiction. Mais c'est un fait qui constate.
Et Aristote établit l'immortalité de l'âme.
Il n'établit pas.
Même pour métaphysique.
Il n'établit pas. informe mon corps peut-elle être spirituelle? Peut-elle être source d'une opération spirituelle? Je pose la question.
Est-ce qu'on pouvait dire que la métaphysique était nécessaire à ce point-là? Parce que si l'unité, on la trouve du côté de l'usage, c'est par l'unité, notamment pour le milieu, c'est par la connaissance qu'on peut comprendre le rapport.
Oui, c'est pour ça que la métaphysique est nécessaire. C'est pour ça que la métaphysique est nécessaire. Là, je pose un problème qui nécessite la métaphysique. Vous voyez, pour affiner mon problème de la substance, ce qui montre bien que là, la substance n'est pas prise au niveau métaphysique, mais au niveau prédicament. Et que l'entelekeia n'est pas prise au niveau métaphysique, mais au niveau, justement, opération vitale. Oui. Et qu'il faudra la métaphysique pour affiner la substance et montrer qu'une substance peut être forme du corps, tout en étant spirituelle, puisque la métaphysique regarde l'être qui est au-delà de la matière, et que la matière est que de l'ordre du pose, et pas du côté d'un principe propre.